Comment dire, c'est mitigé le souvenir, c'est quelque chose, j'ai participé à fond, pleinement, mais j'étais pas vraiment une protagoniste, c'est-à-dire j'étais très timide, très effacée, mais c'était intense, mais j'étais pas pleinement moi, j'étais un peu écrasée, je pouvais pas vraiment m'exprimer. Alors les raisons, elles sont vraiment multiples, hein.
Mais ça
Je
te
peux pas
gênait?
dire, et ça me gênait aussi par moments, ouais. Mais là, pour finir, il y a quand même le souvenir qui domine, c'est quand même la joie, le plaisir. Mais il y a aussi les autres côtés de la médaille. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'étais en plein à côté des leaders, des meneurs. J'étais tout le temps avec eux. Et puis, je souffrais effectivement d'être effacée. C'est-à-dire, au fond de moi-même, j'aurais aimé être comme, pas comme eux, mais c'est-à-dire de m'exprimer, d'être comme un poisson dans l'eau. Mais je ne l'étais pas. Je n'étais absolument pas. Je n'avais pas les mots pour m'exprimer. Et puis effectivement, moi, quand j'avais des copains très proches, je sortais avec un des leaders. Et puis quand il prenait la parole, c'était mon petit copain, effectivement, quand il prenait la parole, moi, j'étais malade. C'est-à-dire, et ce n'était pas le seul, il y en avait plusieurs. Quand il prenait la parole dans ses assemblées étudiantes, je parle des étudiants, que ce soit les assemblées à l'OLA de l'université, que ce soit les petites assemblées où on préparait les choses, effectivement, on a passé. Bon, quand il prenait la parole, c'était toujours en rafale de mitraillette, c'était quelque chose d'une violence, mais inouïe. C'est-à-dire que pour parler, ça devait être violent, ça devait être dur, ça devait être une chose. Ça aboyait. Hein. Je ne dis pas qu'il faisait. C'était pas tous le même modèle. Il y en avait qui étaient beaucoup plus joyeux, qui étaient plus rigolos. Mais il y en avait quelques-uns qui étaient. Et moi, j'avais des battements de cœur. Là, je souffrais vraiment. C'est-à-dire, je pouvais pas comprendre comment on pouvait être comme ça. Mais jamais, j'ai osé prendre la parole pour le dire, parce que je voyais que quand il y avait quelques malheureuses petites bonnes femmes qui osaient dire quelque chose qui était de son état d'âme, mais qui l'exprimait dans les couloirs, dans les coulisses, osaient dire quelque chose qui était de l'ordre du privé, qu'on concevait de l'ordre du privé. C'est-à-dire, c'était des inquiétudes, des états d'âme, des choses qui n'avaient pas, parce qu'il y avait d'autres priorités. Effectivement, moi, là-dessus, je ne peux pas dire que c'était qu'un mouvement de machos qui ont opprimé les bonnes femmes. C'est pas ça. Hein. Moi, je l'ai vécu beaucoup plus. C'était beaucoup plus contradictoire. Mais moi, personnellement, effectivement, je n'ai pas trouvé les mots pour dire ce que je voulais.
C'est drôle, on croit aimer la mer. La mer, on ne voit pas le fond. La mer, on n'en voit pas la fin. Et toi, c'est plutôt le contraire. Toi, tu ne caches aucun mystère. C'est drôle, on croit aimer. Son gré, il vient et il va. Tu ne ressembles pas au vent, toi qui t'attaches à tous mes pas. Et l'on croit aimer les étoiles. Elles sont loin et elles prient. Que de distance entre elle et toi, ce sont des choses qu'on ne dit pas, que je ne devrais pas te dire. La mer, les étoiles et le vent, depuis que je te vois.
C'était Françoise Hardy, je pense que vous l'avez reconnue. On n'a pas mis tous les garçons et les filles de mon âge, mais parce que c'était un petit peu avant tous les garçons et les filles de mon âge. Là, on a choisi une de ses compositions de 68. Alors Eliane, toi, bon, t'étais pas tout à fait dans la même situation qu'Alda. Au contraire, on connaissait Eliane à l'université. Alors pourquoi? Comment toi, tu causais dans les assemblées?
Ouais, moi, j'étais connue. Bon, je suis arrivée donc beaucoup plus tôt qu'elle. Je suis arrivée en 63 à l'université. Et mars 68, j'ai terminé ma licence. Et ça, c'était une chance parce que si je ne m'étais pas présentée à ce moment-là, je ne me présentais pas en juillet. Et je ne devenais jamais sociologue parce que c'était fini. Simplement,
l'université rasée, y compris les études.
C'était fini et c'était impensable de se présenter aux examens en juin ni en septembre. Enfin, c'était hors de question. Donc là, j'ai vraiment terminé mes études in extremis juste avant. Bon, mais alors c'est vrai que là, bon, moi j'ai quelque chose qui, j'arrive pas très bien à me l'expliquer, mais j'ai quelque chose que j'ai jamais bien compris. Je dois avoir eu une roue qui manquait ou quelque chose comme ça. Quelle était vraiment la différence entre les garçons et les filles? Pas sexuel, mais j'ai jamais compris ce que le fait d'être un garçon ou une fille changeait vraiment ailleurs que dans les rapports sexuels, la procréation et qui fait les enfants. Ce qui fait que tout le temps dans ma vie, j'ai fait des choses que normalement quand on est une fille, on ne fait pas. Puis qu'on devrait avoir compris qu'une fille ne fait pas ça. Alors bon, ben, je me battais quand j'étais petite à la récréation avec les garçons. Je montais aux arbres. Enfin, ma grand-mère disait que j'étais une garçonnière parce que j'étais toujours avec les garçons. Et j'ai été punie pour ça. Et puis bon, je me suis une fois présentée avec une équipe de hockey sur glace à 12 ans. J'étais la seule fille d'un tournoi de hockey sur glace. L'arbitre m'a sortie de la glace en disant « on n'accepte pas les filles ». Et je n'avais pas compris que une fille dans une équipe, elle ne pouvait pas être. Donc, et puis, alors, j'ai eu tout le temps des espèces de rappels sociaux sur ce que c'est qu'un comportement social de dame, mais j'oubliais toujours. Ce qui fait que, bon, quand j'ai milité, j'ai vraiment milité, ça m'a aidé à supporter cette ville, mais évidemment, j'ai ouvert mon crachoir aux réunions. Mais c'est vrai, alors, que dans les réunions de l'ASU, où je suis allée de 63 à 68, bon, c'est allé en diminuant, mais quand même, la première réunion où je suis allée, toutes les filles tricotaient et les hommes parlaient. Et moi, j'ai eu le choc de ma vie parce que j'ai pensé que je m'étais trompée d'endroit. Je me dis, c'est pas le syndicat universitaire, j'ai un truc de bienfaisance où on tricote des choses. Enfin, et bon, j'ai bien dû me rendre à l'évidence que non, bah, que les filles, elles trouvaient qu'elles perdaient leur temps là, à écouter ces discours masculins qui leur faisaient ni chaud ni froid, enfin avec lesquels elles étaient d'accord dans l'ensemble, mais on n'avait pas discuté ces détails. Et alors, elles tricotaient pour ne pas perdre leur temps. Il y avait un côté très pratique dans cette histoire. Elles s'énervaient moins aux réunions et probablement elles fumaient aussi un peu moins. Ça occupait les doigts. Moi, j'ai détesté le tricot, donc je ne me suis pas mise au tricot. Depuis toujours, j'ai détesté ça. Et donc, je prenais la parole et je pondais les tracts avec les hommes. Et bon, ça m'est arrivé d'en taper, mais c'est vrai que la division du travail, elle était que les filles, bon, elles écoutaient, puis elles disaient si c'était d'accord ou non, au vote, elles votaient. Et elles tapaient les tracts, alors parce que les garçons, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne savaient pas taper à la machine. Tandis que les filles, elles avaient des machines à écrire. Bon. Et puis, alors, on distribuait les tracts et les filles distribuaient les tracts. Donc là, c'était démocratiquement réparti. Alors, c'est vrai que je me suis retrouvée dans une position qui était assez bizarre parce que j'ai eu des difficultés énormes à avoir des histoires d'amour avec les garçons du même groupe, dans le sens où, il me considérait en fait comme un copain. C'est-à-dire que j'étais devenue quelque chose qui était égal à eux. Et les filles m'en voulaient un peu. C'est-à-dire que j'étais pas une vraie fille, quoi. J'étais, pour elles, quelque chose comme un garçon. Et j'arrive pas très bien à expliquer la sensation que finalement j'avais, mais j'avais l'impression d'être, par le fait que je me comportais comme un homme, un peu asexué, c'est-à-dire que je perdais tout attrait érotique vis-à-vis des hommes et tout rapport amical avec les filles. C'est un peu exagéré parce que j'avais des amis, mais Mais il y avait quelque chose qui clochait. Et ce qui fait que pendant toute cette période de 65 à 68, j'avais des aventures amoureuses et sentimentales, mais avec des hommes qui n'étaient pas à l'université et qui ne me voyaient pas brailler dans les assemblées. Et je dois dire que j'ai mis un certain nombre d'années à comprendre que quand une femme se comporte comme égalitairement et qu'elle prend le micro et qu'elle braille comme les types dans les manifs et dans les assemblées, eh ben c'est pas érotique. Et puis que le désir sexuel, il y en a plus chez les hommes qui la voient physiquement. Bon, mes amants de l'époque qui n'étaient pas à l'université savaient très bien ce que je faisais. Je veux dire, je n'avais pas une double vie au sens où ils avaient l'impression que j'étais une petite étudiante rangée, puis d'un autre côté, je hurlais dans la rue, etc. Mais ils ne me voyaient pas physiquement le faire. Ce qui fait que ça posait aucun problème. Alors j'avais aussi un rôle un peu bizarre parce que les hommes, comme disait Alda, ils parlaient très, de manière très, très académique finalement. C'était un académisme marxiste avec des concepts, c'était très compliqué. Et puis très souvent d'ailleurs, ils se prenaient les pieds dans des grands raisonnements. Et à la fin, personne n'avait rien compris. Alors moi, j'avais un rôle assez particulier qui était de traduire. Souvent, les leaders me disaient « Tu viens avec nous, tu viens à cette assemblée, tu viens, on a besoin de toi, parce que s'ils ne comprennent rien, il faudra que tu traduises. » Alors, je reprenais les grandes idées que j'avais piquées au passage, parce que, comme j'étais étudiante en sociologie, j'étais évidemment étudiante en marxisme aussi, je comprenais un peu le charabia.
Et avec ta sensibilité féminine, tu
alors, je disais en clair, mais... Quand même, je ne faisais jamais que traduire, ce qui me valait des disputes, parce qu'on s'est engueulés sur tout hein, dans cette période. Parce que quand même, je n'étais pas là pour traduire. Donc si je n'étais pas d'accord, je censurais au passage. Puis je disais que ce avec quoi j'avais été d'accord et pas ce que je ne traduisais pas tout. Donc. Puis j'en rajoutais un peu. J'en profitais pour dire moi aussi derrière ce que je voulais dire. Ce qui fait que j'avais la parole, mais j'avais une parole un peu bizarre, qui n'était pas tout à fait la même qu'eux. Et puis bon, j'essayais aussi de... Parce que je n'arrive pas très bien à parler sans humour, alors bon, je rigolais un peu, quoi.
Parce qu'à ce moment-là, évidemment, tous les sujets de discussion entre hommes et femmes n'étaient pas vraiment d'actualité, j'imagine. Quand on parlait de refaire la société, le débat que font les hommes, que font les femmes, quelle est la place des uns et des autres, faisait pas du tout partie de la discussion.
Bah, c'est pas sous cet angle-là, mais en tout cas, on discutait de tout. Je ne sais pas de quoi on n'a pas discuté. Il y en a un jour qui a soutenu qu'il fallait se brosser les dents en marxiste. Alors on a une discussion homérique pour savoir comment c'était de se brosser les dents révolutionnaire ou la différence, quoi. Parce qu'on avait un peu du mal à comprendre. Bon. Mais donc tout y passait et tout était prétexte à discussion. Alors c'est vrai aussi qu'il y avait des mythes qui circulaient. Et qui circulait dans la gauche et dans ce mouvement. Par exemple, chez les hommes, il y avait toujours ce mythe de la femme active. Alors ça, c'était quelque chose au bistrot le soir, là, enfin, on avait fait notre acte et tout.
Devoir.
Et qu'en général, les filles étaient en train de les taper ou étaient rentrées se coucher. Alors, bon, alors ça les prenait. Et moi, j'étais avec cœur, j'étais témoin de ça, mais c'était comme si... J'étais une femme, ils n'auraient pas probablement parlé devant leurs petites amies comme ça. Mais comme je n'étais pas leur petite amie, j'étais comme un copain, j'avais un statut vraiment bizarre. Ah, ils y allaient, ils disaient « Ah là là, qu'est-ce que c'est fatigant d'être un homme, il faut toujours séduire les femmes, il faut faire des efforts, il faut parler, il faut les inviter au restaurant, il faut faire... » Ah, si, je suis fatiguée, ils disaient, je suis fatiguée, j'en peux plus. » Si enfin il y avait des femmes actives. Alors moi, évidemment, ça m'intéressait beaucoup. Je me disais, mais c'est quoi une femme active ? Je disais, ben, une femme qui prenne un peu les choses en main, qui nous fasse des avances, qui nous séduise, qui fasse un peu le boulot, parce que tout ce travail pour finalement avoir une femme dans son lit, c'est vraiment incroyable. Et puis, alors, ils partaient sur leur fantasme. Et puis, ils disaient, l'idéal, ce serait, tu vois, par exemple, je rentre chez moi, j'ouvre la porte. Et il y a une femme déjà tout à poil dans le lit qui m'attend avec des petits yeux brillants de désir. Alors ça, c'était une femme active, c'est-à-dire qu'elle prenait les choses en main. Et puis alors, bon, ça voulait dire que toutes les autres, c'était en gros des femmes passives, des boulets, des bons...
Qu'ils avaient pourtant du plaisir à séduire en utilisant de leur prestige de leader, souvent,
d'ailleurs. Ah ben non, elles tombaient, donc, elles tombaient dans leurs bras. Mais, ça, évidemment, je veux dire, le prestige du leader, de la parole, etc., c'était vraiment très utile, quoi.
N'est-ce pas, Alda?
Pas de doute. Mais alors, ce qui était curieux, parce que moi, j'étais un peu naïve, et puis un jour que j'en avais marre, parce que j'étais très amoureuse d'un de ces militants, et ça ne marchait pas du tout. Un jour, j'ai fait ce qu'il disait. Et comme je savais où il habitait, puis où il mettait la clé, j'ai dit, bon, bah, il va en voir une de femme active une fois dans sa vie, il en a marre. Et je suis rentrée chez lui avant, et je me suis mise au lit et j'ai attendu. Et ben là, j'ai compris qu'il y avait une immense différence entre le fantasme et le mythe et la réalité, parce qu'évidemment, ça n'a pas marché du tout. Et il a ouvert la porte, il a dit, qu'est-ce que tu fous là?
Aïe, 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 encore une fois, c'est toi qui as pris la claque.
Bon, mais entre-temps, j'avais vu aussi que sous le lit, il avait une collection de Playboy avec ses vrais fantasmes érotiques. Et qu'en somme, même si sur le plan rationnel, ils essayaient de lutter, enfin moi, je pense pas qu'ils étaient de mauvaise foi, mais ils essayaient de lutter contre ces images et ces stéréotypes qui les oppressaient eux aussi, d'une certaine manière. En même temps, ils avaient dans leur tête des fantasmes qu'ils avaient hérité et qu'on chasse pas comme ça, quoi. L'inconscient et la sexualité, le désir, ça marche pas très automatiquement.
Ici, c'est l'école dans le vent. Dans la jungle, j'ai appris à compter. Ici, c'est l'école en plein vent. Dans la jungle, j'ai appris à danser. Maître d'école, maître soldat, j'ai peur des bombardiers. Maître d'école, maître soldat, je peux pas m'habituer. Sous mon pupitre, on a creusé un petit trou pour me rassurer. Sous mon pupitre, on a creusé un petit abri pour me protéger. Quand sont venus les bombardiers, mon copain près de moi est tombé. Quand sont venus les bombardiers, mon frère, ventre ouvert. Ses tripes dans mes mains j'ai retenu, mais j'ai pas pu le sauver. Maître d'école, maître soldat, j'ai plus peur des bombardiers. Maître d'école, maître soldat, donne-moi tes armes pour lutter.
Alors, nous allons essayer de maintenant peut-être faire une petite conclusion pour ouvrir, en fait, pas conclure, justement. Hélas, aujourd'hui, le temps qui nous est réservé est fini. Mais la semaine prochaine, nous reprendrons cela avec d'autres femmes. Alors, effectivement, l'histoire d'Eliane et l'histoire d'Alda en très raccourci aujourd'hui, hein, faut reconnaître, parce que je suis sûre qu'elles auraient encore des milliers de souvenirs à nous faire partager. Il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Eliane, tu disais, il y a 10 femmes, il y a 10 expériences différentes.
Ah oui, mais je crois, bon, ça, tout 68, bon, moi, j'ai vécu 68 en plein milieu, mais je serais incapable de dire tout ce qui s'est passé à Genève. Ça, c'est une des caractéristiques de 68, c'est que ça nous a dépassé complètement. Personne, où qu'il ait été, peut dire savoir tout ce qui s'est passé. C'est ce qui fait que c'était vraiment un événement. Et alors, c'est vrai aussi que je pense que autant il y a eu de femmes dans les manifs, dans les assemblées et qui ont participé, autant il y a d'expériences intéressantes et de visions différentes. Je crois que, bon, Alda et moi, on se connaissait en 68. Mais on a eu une entrée et une expérience qui est une manière de sentir les choses qui est très différente. Et je pense que ça vaut la peine parce que c'est une manière de faire un peu le tour de cette histoire.
Ce serait intéressant, je ne dis pas de se pencher pendant des heures et des heures sur cette histoire avec nostalgie, mais il y a effectivement eu, c'est quand même un moment charnière, hein, un moment important dans l'histoire de notre génération. Et effectivement, les femmes là-dedans, comment on était, c'est quand même... C'est quelque chose qui vaut la peine d'être redit, d'être réétudié un petit peu, parce que déjà, ça ne se fait pas dans les médias, ça ne se fait pas automatiquement. Et en plus, c'est quelque chose qui a très peu été dit, ou s'il a été dit par le mouvement des femmes par la suite, il a été dit d'une façon un petit peu, comme ça ressort, comme ça reste. Transmis, c'est un peu stéréotypé, c'est-à-dire on était les reines de la Renéo, hein, et puis c'est pas tout à fait ça non plus. Il faudrait aller creuser là où dans la critique du quotidien, c'est-à-dire dans ce qui sera la suite, hein, la naissance du MLF et la naissance d'autres mouvements sociaux qui ont mis au premier plan de la politique le quotidien, les rapports entre les gens, ce qui a fait donner naissance à toutes sortes de mouvements, de critiques de la psychiatrie, de l'enfermement, de toutes sortes de les luttes de quartier, etc. Donc, et 68 avait déjà en lui les germes de tout ça. Donc nous, les femmes là-dedans, il ne faut pas que les jeunes femmes qui nous écoutent, s'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent, pensent qu'on était des femmes complètement soumises. Non, parce que l'université était pleine, les assemblées étaient pleines de jeunes étudiantes qui étaient là. Hein. Elles n'étaient pas en train de tricoter pendant mai 68. Le tricot, c'était fini. Donc, c'était un moment charnière. Et puis aussi, par rapport au rapport avec les hommes, la sexualité, tout ça, c'était un moment d'explosion. Alors, tous les couples ont pété. Les discussions que toi, Hélène, tu dis, qu'elles se faisaient partout, sur tous les thèmes, elles étaient là, ça mûrissait, mais ça se faisait pas. La politique ne les englobait pas. C'est-à-dire, quand le discours politique prenait le dessus, quand il y avait un micro devant, quand il y avait une assemblée, un discours qui devait passer dans l'assemblée, ces choses-là ne passaient pas. C'était de l'ordre du privé. Et puis, on pensait que les femmes, et c'était de ça que j'ai souffert, on pensait que les femmes, elles devaient se... Et il suffisait que le veuillent. C'est-à-dire, il suffisait de le vouloir comme... Beaucoup de femmes ont essayé de le dire. Il suffisait de le vouloir pour se libérer, pour être bien, à l'aise. Quelques années plus tard, le mouvement des femmes a montré que ce n'était pas le cas, qu'il fallait une expérience sociale de mise en cause collective pour qu'on se sente de nouveau mieux dans notre corps et qu'on trouve les mots pour dire notre oppression et qu'on trouve aussi les mots pour dire... Et on trouve aussi la façon de définir quels étaient nos désirs et quelle était notre sexualité. C'est ça qui était étouffé pendant 68 et c'était ça qui était la grosse contradiction, c'est-à-dire que les femmes, elles vivaient une liberté, une ouverture, mais elles ne savaient pas qu'est-ce qu'elles voulait vivre comme sexualité. Et avec les hommes qui la définissaient, c'était le fantasme du monsieur, du copain, là, qui voulait une femme active. Et puis nous, on ne savait pas ce qu'on voulait. Alors on est devenus des femmes actives, des femmes non soumises, ouvertes, qui avant pratiquaient la liberté sexuelle. Moi, je l'ai pratiquée contre moi. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je peux dire qu'en mai 68, j'ai souffert avec joie. Comme le dit une femme, une protagoniste de 68 à Paris, dans une interview, elle dit « j'ai souffert avec joie et je ne pouvais être que là ». Et moi aussi, je ne pouvais être que là, à l'université, en train de me bagarrer. Mais c'était pas ça non plus. C'était pas parfait. Mais voilà.
Oui, et puis il y avait cette conscience... les hommes avaient cette... Moi, je me faisais attraper pour tout le temps parce qu'ils disaient « il faut qu'il y ait une femme ». Il faut qu'il y ait au moins une femme qui cause.
Il y avait le souci de la démocratie, quand même.
Donc ça, c'est important. Mais en même temps, je l'ai payé cher. Et puis, je crois que le mouvement féministe, après, l'a payé aussi. Et c'est un vrai problème. Je veux dire, Thatcher fait rire les humoristes. Enfin, il n'y a pas une femme haut placée qui, dont on ne dise pas qu'elle est pas, qu'elle a perdu son érotisme d'une manière ou d'une autre. Hein. Et puis ensuite, le MLF, bon, ben, les types se sont mis à dire mal baisé.
Et ont eu peur d'elle, comme on avait peur de toi.
Parce qu'elles ont pris la parole. Ouais, donc, oui. c'est... Il y a quelque chose qui, ou bien on ne l'apprenait pas et on se sentait mal, comme tu le disais très bien, ou bien on l'apprenait et puis on le payait. Mm-hmm. Parce qu'on ne voulait pas l'apprendre au prix de ne plus avoir d'histoire d'amour avec les hommes avec lesquels finalement on était d'accord dans la révolte contre toute une série de choses. Ce n'est pas possible. Mm-hmm. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas...
Alors, je crois qu'on va reprendre cette discussion la semaine prochaine avec d'autres femmes, parce qu'on repartira en partie de ce qu'on a discuté avec Eliane aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qu'il faut approfondir et justement essayer de comparer les façons de percevoir. Peut-être que quand on venait, on a pensé à des amies qui étaient soit typographes, soit enfin qui ne sont pas forcément toutes des universitaires et qui ont peut-être vécu les choses de façon différente. Et c'est bien clair que nous, ce n'est pas la nostalgie qui nous fait trembler en ce moment, c'est effectivement le désir de comprendre comment les choses ont progressé depuis 68, qui, comme disait Alda, ça a été l'éclatement, le début de la révolte. Ça s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Et on n'aimerait pas, nous, donner l'impression, comme les journaux le donnent trop souvent, que tous les gens qui étaient en mai 68, aujourd'hui, sont tranquillement rangés et qu'ils ont tout oublié. Pour nous, il y a encore beaucoup, un bon nombre de femmes qui se rappellent ce qu'elles ont vécu en 68, mais qui continuent à se bagarrer aujourd'hui. Et ça, pour nous, c'est important.
Et nous ne sommes ni rangés, ni aigris.
Voilà. Exactement.
Attention, on va descendre à l'abri, hein.
We've decided to go down into the shelter.
So back into the shelter where two lovely women rose, and with a brilliance and a fierceness and a gentleness which froze the rest of us to silence as their voices soared with joy, outshining every bomb that fell that night upon Hanoi.
John Baez, qui évoque la guerre du Vietnam, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était un lien très, très important entre tous les militants, qu'ils soient de France, de Suisse, d'Allemagne et des États-Unis, pour se battre contre la guerre, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, Bob Dylan, Hair et d'autres histoires. Et c'est la fin de notre émission aujourd'hui, Remue Ménage, 93.8 Radio Zone.
The black pajamaed culture that we tried to kill with pellet holes and the rows of tiny coffins we've paid for with our souls have built a spirit seldom seen in women and in men, and the white flower of Bach Mai will surely blossom once again. My son.
Une femme sur Radio Zone 93.8, la suite de notre programme.
Il y en a qui voudraient que je porte une oriflamme ou un couteau, que je crie et que je m'emporte, mais faudrait qu'ils se lèvent tôt. Il y a 15 ans et des poussières, peut-être, je leur aurais plu. J'ai pleuré pour ma vie entière, maintenant je ne pleure plus. Oui, mais moi quand j'avais 15 ans, quand on me parlait de justice, j'entrevoyais un précipice, et puis je pleurais tant et tant. Quand on me disait liberté, je mordais mon poing et ma peine. Alors tu vois, c'est pas de veine, il me semble que j'ai changé. Il y en a qui voudraient que je chante des grands sujets, des grands machins, mais pour la chanson méritante, j'ai pas le souffle et pas l'entrain. Quand on en a pris plein la gueule, on hésite à recommencer. J'aime mieux me chanter toute seule, ma petite chanson dégagée. Et maintenant que me voilà, quand on me parle de courage, je manque m'étrangler de rage, mais je ne pleure plus, tu vois. Je crois bien même que je ris, mais c'est un rire qui me brûle, et peu à peu la joie recule, pauvre de moi que j'ai vieilli. Ils croient donc qu'avec des paroles, on peut changer le genre humain. Ils pensent...